Bon début de semaine, bienvenue à Compte Complet, Alain Huteau en compagnie de Marc Griffin. C'est le calme après la tempête, mon cher Marc. Quoique pour certains joueurs, je te dirais que le retour à la normale, c'est pas très bien passé pour plusieurs vétérans. On va en parler un petit peu plus tard, mais d'abord, on a porté notre attention sur trois séries importantes en fin de semaine. Et je veux qu'on commence avec les Braves d'Atlanta contre les Mets de New York, Marc, parce que c'était une série de cinq matchs. Puis, les Mets plutôt en ont remporté quatre. Et là, l'écart entre les Mets et les Braves s'est considérablement agrandi. En fait, c'est la deuxième série entre les deux équipes. Les Mets ont remporté les deux séries. Pas que c'est fini pour les Braves, mais chapeau aux Mets de New York.
Ben, écoute, effectivement, ils ont profité de cette occasion pour faire le point, si tu veux, parce que effectivement, Alain, on s'était rapproché chez les Braves, là. On s'était rapproché même à un demi-match.
Oui.
À un moment donné, des Mets de New York. Bon, on sait tout le mouvement personnel qu'il y a eu. Même chez les Braves, on avait bougé. On semble être prêt pour le dernier droit. Whoops! Les Mets sont partis sur... Écoute, on joue de la très, très bonne balle là, du côté des Mets de New York. Et c'est ce genre de... Tu sais, une série de trois gagnes, deux matchs, bon... mais là, une série de cinq où tu vas en chercher... c'est intéressant de voir ça parce que je veux rien enlever à ce que les joueurs font, c'est extraordinaire, mais c'est l'effet Showalter, là, c'est vraiment là, je trouve que ça se ressent. Mm-hmm. On sentait les Mets un peu plus vulnérables à la pause du match des étoiles. Et là, soudainement, ben, on est reparti. Jacob DeGrom qui revient. Deux départs. Oui. Hyper convaincants. Là. C'est comme si aller chercher le meilleur lanceur sur le marché des transactions puis il arrive chez vous. J'aime ça. Il n'y a pas eu de cette fameuse controverse encore chez les Mets cette année. Chapeau donc à Showalter. Chapeau à cette nouvelle philosophie d'équipe qu'on semble s'être donnée chez les Mets de New York. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce que je vois, la contribution, même la transaction. Si on n'a pas fait une transaction majeure, on n'est pas allé chercher là, un gros, gros nom. Mais J.D. Davis semblait malheureux, semblait un gars qui fait distraire un peu. Il est parti. Les gars qui sont arrivés, évidemment, hyper motivés de se retrouver chez les Mets en raison de la situation. Je trouve qu'on gère bien, très, très bien la situation présentement chez les Mets de New York.
Oui, mais en tout cas, Vogelbach ne pourrait s'ennuyer trop avec les Mets. Comme il y a plus de droitiers que de gauchers, il va avoir sa part de jeu. Et il est très bon contre les droitiers. C'est pas ses faiblesses contre les gauchers, il jouerait régulièrement. Pas le seul frappeur dans cette situation-là, mais c'est sûr que l'arrivée de Naquin, on se demandait pourquoi au départ, ben, quand tu penses aux options qui s'offraient à Showalter, c'est peut-être mieux d'avoir Tyler Naquin sur le banc que un gars comme, c'était Jankowski là, qu'on a laissé aller. Le seul petit point, c'est au poste de receveur, mais on en a parlé, Marc, la semaine dernière, poste de receveur, Buck Showalter était très confortable avec ce qu'on avait présentement, avec le retour de McCann.
Si tes huit premiers frappeurs, parce que là, évidemment, on était cherché cette profondeur, tu as parlé de Vogelbach, entre autres, de Naquin, t'es capable de vivre avec un receveur qui contribue pas tant en attaque, mais surtout qui est bon avec les lanceurs. Puis, tu sais, Alain, on le répétera jamais assez, mais arrêtons d'évaluer tout le temps les joueurs par leur coup de bâton. C'est ce qu'ils apportent en défense, c'est extrêmement important, et surtout dans une équipe de premier plan comme ça, avec des lanceurs de premier plan, ça te prend un gars. Il faut que tout le personnel de lanceurs, tu leur poses la question, t'aimes-tu ça lancer à ce gars-là? Si la réponse est oui, tu devrais même oublier pratiquement ce qu'il fait en attaque, c'est lui qu'on veut. Alors à ce moment-là, c'est important, c'est tellement important de le faire. Je comprends que si le gars en plus apporte une contribution de puissance ou de présence sur les buts, tant mieux.
Ouais.
Mais c'est, selon moi, c'est secondaire. Puis je trouve que la situation très, très bien. Ça serait facile d'aller chercher un Wilson Contreras ou d'aller chercher un gros nom. Mais c'était pas nécessaire actuellement là, chez les Mets de New York.
Oui. Écoute, juste préciser là, qu'au mois de juillet, les deux séries, c'est 6 victoires, 2 défaites pour les Mets contre les Braves d'Atlanta. La différence, une grosse partie de la différence là, au classement des deux équipes, c'est là qu'elle se situe.
Exact.
On parlait de la meilleure équipe dans le baseball majeur présentement, des Dodgers. On les avait à l'œuvre contre les Padres de San Diego. Une équipe pactée. On s'attend. Écoute, il y avait des attentes envers cette série-là. Ça n'a même pas été serré. Trois matchs qui ont été largement à l'avantage des Dodgers depuis. D'écart, c'est le match qu'on a fait dimanche, 4 points. Avant de parler juste des Dodgers, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de Tyler Anderson. Comment ça se fait qu'un gars qui lance 91 est capable de tenir en échec une attaque comme celle-là?
Parce qu'il lance la balle où il veut. C'est aussi simple que ça. Il est précis. Si tu lances 91 avec un bon changement de vitesse, d'ailleurs, on a parlé amplement de son changement de vitesse dans notre reportage d'hier, là, mais il lance cette balle-là où il veut. Ça me fait penser, je ne suis pas en train de comparer Anderson à Greg Maddux là, de l'époque, mais ça me fait penser un peu à un gars sans puissance, mais qui contrôle les coins, qui lance exactement où il veut. Il semble avoir toujours le dessus sur le frappeur, sur les choix de tir. Mais la grande différence, Alain, c'est de lancer la balle où tu veux. Puis c'est ça l'art de lancer. Si tout le monde savait lancer la balle où il veut, là, imagine-toi un Jacob deGrom qui lance la balle où il veut, il n'y a jamais personne qui toucherait à la balle. Alors, c'est difficile. C'est pour ça que les meilleurs sont dans le baseball majeur, puis les meilleurs qui lancent 90 000 à l'heure peuvent retirer une équipe comme les Padres. Ceci étant dit, je regarde toute la série, là. Si ma mémoire est fidèle, les Padres n'ont pas marqué beaucoup de points, là, 4 points dans la série 3. Là. Et pourtant, tu regardes la formation. Donc, c'est peut-être une combinaison où les frappeurs des Padres, avec l'arrivée de Soto, veulent en faire un petit peu trop. Et la combinaison qu'un Tyler Anderson présente. Parce que son dernier dépense avait été assez ordinaire. Un hein, de ses moins bons, très, très bien rebondi contre les Padres. Et tu l'as dit, vraiment, une série là, nettement à l'avantage des Dodgers, qui, soit dit en passant, font tout bien. Ils jouent bien en défense, les prises de décision, autant en défense que sur les sentiers. Le baseball de situation, on en parle moins dans le baseball d'aujourd'hui, mais tu as toujours l'impression là, qu'on ne gaspille pas un gars au troisième chez les Dodgers de Los Angeles. Le réveil de Bellinger, on pourrait même rajouter Max Muncy dans ça, les deux ont connu de très, très bonnes séries. Imagine-toi si un de ces deux gars-là se mettent à frapper comme ils sont capables. On a encore vu au cours de cette série-là tout le talent de Trey Turner, tout ce qu'il peut faire sur un terrain de baseball. Puis, ben, Freddie Freeman, qui, bon an, mal an, produit ses points. Mookie Betts, Trey Turner sont toujours sur les sentiers pour Freddie Freeman. C'est vraiment une très, très bonne équipe actuellement.
Oui, dans le fond, ce qui reste à faire aux Dodgers, ils vont terminer premier de leur section et probablement avec le meilleur dossier de toute la Ligue nationale. Je ne t'ai pas regardé passer la parade. Regardez la situation des blessés, peut-être essayer de voir comment on va gérer le tout, ce surplus de personnel éventuel s'il n'y a pas d'autres blessés, évidemment.
C'est pas un défi facile de le faire. Garder les gars actifs, garder les gars avec une belle motivation. Tu vas me dire, ouais, un instant. Là. On peut tomber dans des tendances là, de dire, bon, mais là, les gars, on a 10, 12, 15, 20 matchs d'avance, puis on peut rester la coulée douce. Fait que ça, un aspect qui n'est pas négligeable dans le travail du gérant ou de ceux qui préparent l'équipe, évidemment. Puis tu prépares en même temps. Il y a des gars qui veulent prouver que c'est eux qui vont être le partant à telle position pour les séries. Ou un releveur qui veut se positionner un peu plus avantageusement en 7e ou 8e manche. Mais tu l'as dit, Alain, tellement d'impondérables. Est-ce qu'il va y avoir des blessés? Est-ce qu'il va y avoir une situation qui va faire en sorte que tout va changer? Mais en ce moment, je vais te dire une chose, le train, il va vite puis il défonce tout ce qui se fait. C'est incroyable la façon dont on joue au baseball actuellement. Là.
Bon, et la dernière équipe, il y a une équipe qui se comportait comme ça il n'y a pas si longtemps, c'était les Yankees de New York. Écoute, on parlait de passage à vide, là, on a joué pour 500 au mois de juillet. Passage à vide, je trouve qu'il se prolonge un peu là, pour les Yankees. Ils ont frappé le Waterloo contre les Cards de Saint-Louis. Il y en a plusieurs qui prétendaient, bon, ils vont avoir une équipe de la Ligue nationale. La Ligue nationale est moins forte. Ils vont faire une bouchée des Cards. C'est pas du tout qui est arrivé. Là, les Cards ont balayé les Yankees de New York en fin de semaine. Montas qui a raté sa première audition, contrairement à l'ancien des Yankees Montgomery avec les Cards. Deux choses. Les Yankees ont, eux, du peaufinage à faire de façon sérieuse. Et deux, je me demande si les jeux ne sont pas faits dans la centrale de la Ligue nationale. On pourrait y aller en deux temps, Marc, d'abord les Yankees, mais parce qu'on va parler des Brewers, là, mais les Brewers n'ont pas fait grand-chose, sinon Hader. Depuis qu'Hader est parti, Devin Williams, ça ne va pas bien. Bref, je me demande si on n'a pas le premier rang pour de bon. On va commencer avec les Yankees, Marc. Qu'est-ce qui ne va pas?
Oui, bien écoute, Alain, là, on est tout le monde, autant ça allait très, très, très bien dans les premiers mois de la saison. On parlait de constance des partants. Il y a toujours une belle production. C'était pas juste Aaron Judge, il y a quelqu'un qui le supportait. L'absence de Stanton, ça fait sentir parce que soudainement, L'attaque ne produit pas autant. L'équipe qui semble beaucoup plus vulnérable soudainement. Et là, lorsque tu vois, tu es un joueur d'une autre équipe, tu vois les Cards les balayer les Yankees. Ouais. On n'a plus cette intimidation où tu comprends, d'affronter les Yankees, on s'est dit, il y a un instant, là, c'est une équipe qu'on peut battre, qu'on peut aller chercher. Alors ça, c'était important, selon moi, pour les Yankees de garder cette espèce de force, cette force de frappe-là. Qu'on semble avoir perdu. C'est pas anormal dans une longue saison de maintenir, de maintenir le rythme qu'ils avaient en début de saison. Mais là, on sent que c'est y a des trous. Il y a des trous. C'est pas parfait. Malgré tout, c'est tout le personnel qu'on a en place. Moi, je vais dire, écoute, ce que Montas a démontré, bon, on va lui donner la chance, c'est un mauvais départ. Mm-hmm. Mais moi, rappelle-toi ce qu'on avait dit sur Montas. Ouais. On n'est pas allé chercher un autre Garrett Cole, là. C'est un quatrième partant, peut-être, dans la rotation, cinquième à ce qu'il remplace Severino. Il a connu un mauvais départ. Tu sais, c'est au partant 1, 2, 3 de traîner un peu cette équipe-là. C'est un peu comme ça que ça a toujours fonctionné dans le baseball. Et chapeau à Montgomery, qui... trop de transactions, là, on va se le dire. Là, et bon, je comprends que c'est les gens ont dit, là, c'est pour préparer les Yankees pour les séries, d'avoir un excellent voltigeur de centre. En tout cas, je trouve que Montgomery a fait ce qu'il avait à faire contre son ancienne équipe. Vraiment, t'es très, très bon. Il va vraiment aider les Cards de Saint-Louis dans le dernier droit.
Ouais, dans le fond, l'échange, c'est Montas contre Montgomery. Quand tu y penses sur le plan du personnel, c'est au monticule que les Blue Jays, que les Yankees ont de la difficulté, particulièrement en relève. Là. En fait, Marc, ça coïncide presque avec la blessure de Michael King. Tout le monde parlait de Clay Holmes, là, mais depuis que Michael King n'est pas là, Marc, c'est comme si les releveurs avaient perdu leur repère. Les Rose n'est pas aussi efficace qu'il était en début de saison. Pouvait-il l'être pendant une saison complète? On peut certainement en douter. Mais c'est personnel de releveur, là, présentement, c'est un problème pour le gérant Aaron Boone.
Oui, puis l'Oasiga n'a pas pris la place qu'on pensait qu'il allait prendre encore, tu sais, malgré son absence. Et là, il est revenu. Ça n'a pas. Et on jongle. Aaron Boone jongle avec qui doit utiliser à quel moment. Il n'y a pas de doute là-dessus. On le sent là, dans sa prise de décision. Il veut aller avec le gars qui va lui donner le plus de possibilités d'aller chercher un retrait, mais ça ne fonctionne pas toujours actuellement. Encore une fois, là, je pense qu'il ne faut pas paniquer chez les Yankees. C'en est un long passage à vide. C'en est un. On s'est forgé une avance pour probablement contrer un peu ce genre de situation. Mais reste qu'en ce moment, il va falloir trouver des solutions gagnantes chez les Yankees de New York. On les sent le plus vulnérables là, par les temps qui courent.
Bon, c'est les Cards de Saint-Louis maintenant, balayage. On est au premier rang. J'ai émis l'hypothèse que ça se pourrait que ce soit permanent, ce premier rang chez les Cards de Saint-Louis. On en a parlé, Marc, les Brewers ont échangé Hader. On a obtenu le releveur numéro 1 des Padres, les deux. Allait pas si bien que ça, même si on parle de deux lanceurs de qualité Hader, étant bon, une coche au-dessus, on va s'entendre là-dessus. Mais vulnérable à l'attaque des Brewers, puis on a l'impression que ça pourrait être compliqué dans les deux derniers mois.
Écoute, l'échange, je comprends l'échange de Hader, je la comprends pas très bien. C'est une question financière, évidemment, mais. J'ai toujours parlé qu'on mésestime l'effet lorsqu'on fait une transaction et on se fie uniquement sur ce qui est écrit sur un bout de papier ou les chiffres qu'on veut mettre, c'est-à-dire que l'impact qu'un gars peut avoir dans une équipe, dans le vestiaire, ce qu'il apporte. Hader semblait extrêmement populaire dans cette équipe-là. Il était avec les Brewers depuis longtemps. Bon, non seulement il était bon sur le terrain, là, mais extrêmement intimidant. Tu sais, c'est la force de l'équipe. On arrivait en fin de rencontre, on avait Williams, on avait Hader, on ferme les portes. Tu as dit qu'il allait moins bien, c'est vrai. Mais bon, qui est parfait dans une saison, il n'y a pas grand monde. Donc, je trouve ça vraiment de valeur. Et là, on a senti là, mais carrément une baisse de régime. Et les Cards qui, eux, au contraire, avaient le vent dans les voiles. Et tu le sais, si tu ne gagnes pas la division centrale dans la nationale, tu ne fais pas les séries. Parce que je regarde ce qui se passe là avec. On va parler des Phillies rapidement après, mais 9 victoires dans leurs 10 derniers matchs, les Phillies, ils vont très, très bien. Donc, sont en danger, les Brewers. C'est un gros pari qu'on a décidé de faire en échangeant Ader la date limite des transactions. On est en train de le perdre, ce pari-là. Et lorsque ça commence à glisser en bas, Alain, ouf, c'est pas facile de rebondir. Mm-hmm. Encore une fois, là, je regarde les entrevues des joueurs à la suite de la transaction d'Ader. Il n'y avait personne de joyeux là-dedans. Là. Personne qui disait « Wow, on a bougé, mais on était à chercher une coupe de releveurs, on a fait ci. » Non, non, c'était comme « Je ne sais pas quoi vous répondre. » Alors, c'est... non. Je regarde du côté des Cards. Écoute, Arenado, bon, Goldschmidt connaissait déjà une saison remarquable. Là. Mais est-ce que tu as vu Arenado jouer là, récemment? C'est ce gars-là. Et non seulement en défense, là, puis il y a un petit réveil de Tyler O'Neill aussi là, qui semble vouloir bon, frapper des balles avec un peu plus de force.
Fait que, retour de Paul DeJong à l'aréco, Marc. On a un peu punch. Là, DeJong qui est revenu avec une confiance renouvelée.
Exactement. C'est pas la Matt Carpenter encore, mais ça reste quand même très, très bon ce qu'il a fait Paul DeJong. Mais et je reviens rapidement. Rappelle-toi la date limite des transactions. Bon, regardez qui a bien fait, qui a moins bien fait, mais je vous disais, les Cards, deux lanceurs partants de qualité, d'expérience qu'on est allé chercher, exactement ce qu'on avait besoin. Alors là, on a une bonne attaque, mais regarde le départ de Montgomery. J'ai hâte de voir ce que Quintana fera, mais ce que je veux dire, c'est que les Cards, d'après moi, sont partis là, pour Alice. Bon, non seulement ils ont déjà le premier rang, là, mais s'éloigner éventuellement les Brewers de Milwaukee.
Oui, chapeau à la direction. Là. On avait besoin de manches. On n'avait pas besoin de lanceurs on n'a pas besoin de Scherzer ou quoi que ce soit d'autre. Ce qu'on voulait, c'était quelqu'un qui tenait des manches. On a des bras de qualité en relève là, chez les Cards. C'est pas que c'est parfait, là. Il y a des bras de qualité là, en relève. On cherchait quelqu'un qui était capable de lancer 5 à 6 manches. On en a eu deux. Je n'étais pas le plus gros fan de Quintana, sauf qu'avec Pittsburgh, c'est ce qu'il a donné des départs de 5-6 manches.
On a comblé un besoin. On avait un besoin là. On l'a comblé. Ça n'a pas coûté très, très cher. Parce que rappelez-vous, les Cards étaient dans le coup, selon moi. Ben, tu le sais, là, pour Juan Soto. Donc, on avait probablement un peu de matériel pour faire une grosse transaction. Ouais. On ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le joueur qu'on voulait. Mais on est allé chercher deux lanceurs, selon moi, tu l'as dit, qui vont donner des manches et qui vont permettre à d'autres de respirer un peu mieux. Très, très bonne. Tu as raison de saluer le travail du deuxième étage.
Oui, et on en a parlé brièvement, Marc. Je ne sais pas si on peut élaborer un petit peu là-dessus, là, mais l'année passée, on a remis en question chez des Cards, hein. Des transactions de jeunes joueurs qui ont éclos ailleurs. On se posait la question, est-ce que c'est possible que les Cards, compte tenu des succès de certains anciens qui se sont trouvés ailleurs, on n'a pas eu peur de se brûler un peu parce que si on faisait une transaction pour Juan Soto, c'est sûr que Nolan Gorman pensait. Matt Liberatore probablement y pensait. Donc, tu regardes ça, c'est deux gars qu'on pourrait avoir, là, un dans la rotation puis l'autre parmi nos joueurs étoiles des 5-6 prochaines années. C'est pas farfelu de penser là, que la remise en question qu'on a faite l'année passée est peut-être pesée dans la décision des Cards de ne pas aller de l'avant.
Non, écoute, moi, je suis convaincu, lorsqu'on a parlé de ça publiquement, là, convaincu que les rencontres à l'intérieur de l'organisation pour dire, bon les gars, là c'est important de faire les bons choix. Chapeau aux dépisteurs. Ceux qui recommandent les joueurs, parce que eux autres, c'est dans le développement des joueurs qu'il fallait regarder. Bon, mais là, les gars, on sait qu'ils sont bons, on les a repêchés. Est-ce qu'on les développe moins bien? Puis là, soudainement, ils s'en vont ailleurs, ils sont meilleurs. Fait que c'est pas mauvais parfois de se poser des questions dans une organisation pour dire, hey, il y a un instant, là, je pense qu'il y avait des choses on avait des choses à régler ou à mieux évaluer. Écoute, j'ai l'impression, Alain, qu'à chaque match que l'on présente, il y a un ancien des Cards qui T'sais, mais récent, là, je parle pas des 10 dernières années, là, récent, là, les 2-3 dernières années, là, qui est là, qui était impliqué dans une transaction ou peu importe, là, et qui fait bien. Alors, ça serait intéressant à un moment donné de regarder, même de faire une espèce d'équipe d'étoiles des anciens Cards des 3 dernières années. On pourrait être surpris de la qualité des joueurs qui se retrouveraient dans cette équipe-là.
Oui, on peut dire la même chose, c'est les Astros aussi, hein, les anciens Astros contre les anciens Cards. Là, je suis sûr que ça ferait un très, très bon match. Marc, Abraham Taureau. Se retrouve dans les ligues mineures avec les Mariners de Seattle. On a vu plusieurs acquisitions là, de la part des Mariners. La dernière, bon, c'est Derek Hill des Tigers de Détroit. Voltigeur, ancien choix de première ronde des Tigers qui ont décidé de passer à d'autres choses. Mitch Haniger qui est revenu. Jesse Winker qui recommence à frapper. Bref, ce qui signifie qu'Adam Fraser va jouer plus souvent probablement au deuxième but que comme voltigeur Malheureusement, bon, pour Abraham, ça s'en venait. Là, on le sent. Puis les Mariners, on a parlé des Mets là, qui ont acquis des joueurs qui pouvaient produire. La production offensive d'Abraham faisait en sorte qu'il devenait vulnérable.
Et si les Mariners n'étaient pas dans la course, probablement qu'on voudrait garder Abraham, le développer, trouver une solution pour qu'il s'en sorte. Là, on vise une place en série. On s'en va, on bâtit une équipe, on investit beaucoup. Puis, tu sais, j'ai toujours dit, moi, si tu frappes, on va trouver une place. Si tu frappes pas, tu deviens vulnérable. Je sais qu'on aime beaucoup Abraham Toro chez les Mariners. C'est pas du tout qu'on abandonne sur lui actuellement. Au contraire, on souhaite vraiment que... On en a vu plein là, des joueurs qui retournaient dans les ligues mineures et que soudainement, ils ont retrouvé leur repère assez rapidement. Je suis convaincu que si Abraham frappe bien, retrouve ses repères, on va le revoir avec les Mariners cette année. Là. En souhaitant évidemment qu'on retrouve, mais vous savez, ça se passe dans la tête. Les habiletés sont là, le talent est là, Abraham l'a démontré, frappeur ambidex, frappe bien. Il avait connu, rappelez-vous, un camp d'entraînement extraordinaire. Là, il s'est mis dans les premières semaines, là, dans un espèce de trou. Il n'était pas capable de s'en sortir. Et malgré quand même une bonne puissance, selon moi, hein, ça a été plus difficile pour Abraham là, d'avoir une espèce de constance. Alors moi, je pense qu'il a la tête. C'est-à-dire, quand je dis la tête, là, c'est que c'est un bon gars, Abraham. Il comprend exactement ce qui lui arrive. Faire un peu de ménage dans son état d'esprit, Ça va, selon moi, il va rebondir. Puis, encore une fois, là, évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux des Mariners, là, mais je suis convaincu que si Abraham, ça va dans le 3 et domine comme il est capable, c'est-à-dire de bien faire, de bien frapper, on va le revoir avec les Mariners. Ce gars-là apporte, encore une fois, frappeur ambidex, peut jouer partout en défense. Il est bon en plus en défense. Alors, si ce gars-là te retrouve au moins vraiment ses repères, on va le revoir avec les Mariners. Regarde, il n'y a personne qui a dit que c'était facile. Une fois que tu es dans la Ligue majeure, là, le plus dur, c'est d'y rester. C'est pas de ce rendre-là, c'est d'y rester. Alors, c'est un petit, comme l'expression le dit en anglais, là, c'est un petit bump on the road. Là, c'est il n'y a pas eu un bon vieux gros nid de poule. Là. Puis là, il est pris là. Trop de talent, on l'aime trop chez les Mariners pour qu'on ne puisse pas revoir Abraham Toro là, dans un avenir assez rapproché.
Bon, parlant de demeurer dans le baseball majeur, Charles Leblanc, lui... s'organise pour se faire remarquer et à coup de 3 coups sûrs par match, il n'y aura pas de problème pour lui.
Écoute, 3 coups sûrs dans son dernier match contre les Cubs dimanche, son premier vol de but également. C'est extraordinaire. C'est une histoire à faire rêver là, carrément. Ben, en fait, toute son histoire à Charles depuis le début, c'est extraordinaire. Mais de maintenir un tel rythme. Parce que là, l'échantillon, tu vas me dire, n'est pas tellement grand, mais assez pour avoir que les équipes analysent la situation. OK, un instant, là, lui, quelles sont ses faiblesses ou quelles sont ses forces? On le connaît, Charles Leblanc, maintenant. Mm-hmm. Et malgré tout, ce gars-là continue à frapper. Moi, j'adore sa position au bâton. Il est extrêmement calme, mais il est compact. Il n'y a pas de gestes inutiles. C'est pas un gars qui... Tu sais, tu vois pas la jambe avant qui part dans les airs, puis tu sais, une espèce de séparation, là, que tout... Non, il est hyper calme, très compact, un élan qui est très, très rapide, pas du tout intimidé par ce qui se passe dans le baseball majeur en termes de vélocité ou en termes de mouvement sur les tirs. Vraiment, je suis convaincu que Don Mattingly est hyper heureux de ce qu'il voit présentement de Charlemagne et toute l'organisation, d'ailleurs.
Oui.
Et Charles qui, écoute, comme je l'ai mentionné tantôt avec Abraham, c'est pas d'être rappelé, c'est organisé pour rester là présentement. Et là, il joue pas une fois sur deux. Là. Il est un joueur, c'est un joueur régulier depuis qu'il est là. Alors, c'est vraiment impressionnant ce que Charles est en train de faire. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que ça se poursuive le plus longtemps possible.
Oui, chez les Marlins, il y a un petit virage jeunesse. Vous allez me dire un autre. Il y a Burdick qui est là, Blairy qui est là, De La Cruz qui joue un petit peu plus souvent. Il y a un petit passage qui est en train de se faire, Miguel Rojas, c'est peut-être sa dernière année avec l'équipe, quelques vétérans, j'ai l'impression qu'ils vont quitter. Est-ce qu'ils vont éclore assez tôt pour pouvoir aider les lanceurs partants? On a quand même quelque chose de pas trop mal là, chez les Marlins, au monticule comme lanceur partant mené par le brillant Alcantara. Bon, chez les Blue Jays, on s'est retrouvé pendant quelques jours avec 3 Québécois dans le baseball majeur. en raison du rappel de Otto Lopez. Ça, c'est en à la suite de la blessure de George Springer. Springer, Marc, on l'a vu s'élancer, là, écoute, il grimace presque à chaque élan. Moi, je trouve que ça ne regarde pas bien. Malgré tout, c'était une fin de semaine pas trop mal. On jouait contre les Twins, une équipe qui se bat pour une place en série. On est allé chercher 2 matchs sur 4. Je ne dis pas que c'est parfait, juste à l'étranger contre une équipe qui se bat. Je pense qu'on peut parler d'un week-end satisfaisant pour les Blue Jays.
Oui, puis là, la transaction qui a amené Whit Merrifield prend tout son sens avec la blessure de George Springer. On peut avoir un gars là qui va donner un apport en attaque là, qui est meilleur que Zimmer. Là. Donc, c'est intéressant. Écoute, moi, je n'aille pas du tout ce que je vois des Jays. C'est sûr qu'on a l'impression que des fois, on laisse encore beaucoup de coureurs sur les buts. Puis c'est pas, on a l'impression que l'attaque... ça semble vouloir débloquer un match, puis whoop, les autres matchs, c'est un peu plus tranquille. Mais comme tu le dis, Alain, on s'en va, on gagne 2 matchs sur 4 contre les Twins. C'est probablement exactement ce que tu voulais faire, ou en tout cas, c'est sûr, on peut toujours faire mieux, là. Mais moi, j'avais pas ce que je vois, j'avais pas ce que Schneider fait avec cette équipe-là présentement. Lui-même tente d'implanter son style avec l'équipe. Mm-hmm. On sent bien répondre à ça. Une belle utilisation de tous les joueurs. Je regarde à chacun des matchs, on utilise 3, 4. Enfin, on utilise hier, dans le match de dimanche, on a utilisé tous nos joueurs de position dans ce match-là. Romano, hier, l'a échappé, mais on est revenu. Une décision controversée sur le jeu qui a mis fin au match. Mais bon, tu vas en gagner, tu vas en perdre des jeux controversés. Cette fois, les Blue Jays ont eu le meilleur. Mais tu sais, J'ai aimé ce que j'ai vu de Vlad dans cette série-là. Je sais à quel point Vlad, c'est le joueur clé en attaque. Puis il y a Teoscar sans mettre dans une bonne séquence.
Ouais.
On jongle aussi un petit peu avec la formation. Il y a Kirk qui a frappé finalement un coup sûr après quoi? 0 en 22. Donc, il faut trouver un moyen. Je l'ai toujours dit, la force des Jays, c'est l'attaque. Il faut trouver le moyen de garder ces gars-là à flot, que les gars puissent produire. Parce que là, autant on était emballé par la production des receveurs pendant longtemps. Là, dans les dernières 2 semaines, là, les receveurs ne frappent pas. Il n'y a pas de contribution du tout. Mm-hmm. Alors, on sent que ça a son effet sur l'équipe. Alors là, ben, c'est tenter de trouver encore une fois des solutions. Mais j'aime ce que Schneider fait avec l'équipe présentement. La perte, donc, de Springer est importante, évidemment. Je pense qu'il était temps là, qu'on prenne une décision là-dessus. Ouais. Mais je reviens à Merrifield. Je trouve que ça... Il amenait une belle profondeur. C'est là qu'on va le voir là, dans les prochains jours avec Springer absent.
Relativement à la décision de l'arbitre, moi, je pense que Baldelli en a mis un peu trop. Là. À l'origine, je pensais que Sanchez était correct, mais quand on regarde attentivement, je m'excuse, là, mais Merrifield, d'aucune façon, peut toucher le marbre. Merrifield, c'était sa première réaction. Je ne peux pas marquer. Et sans parti pris, honnêtement, là, je pense que la décision a été la bonne, personnellement.
Écoutez, tu sais, c'est une règle qu'une zone grise, là, bon, c'est pas toujours évident, mais normalement, lorsque tu attends la balle, lorsque la balle n'est pas encore dans ton gant, tu peux pas être par-dessus le marbre. Tu sais, tu peux pas couvrir le marbre, tu peux pas bloquer le marbre. Alors là, c'est de dire, bon, ben, à quel moment le receveur se dit, OK, là, la balle, elle s'en vient, je peux mettre le plus devant possible. Tu comprends? Donc, la règle, c'est, normalement, tu es à côté, ou en fait, tu es prêt, tu bloques pas, en fait, le marbre. Je ne dis pas que tu es à côté, mais tu bloques pas un espace pour le coureur. Mais là, une fois que tu as la balle, là, tu peux commencer à bloquer le marbre. T'sais? Alors, c'est là la zone grise. Alors, c'est où qu'on commence, puis ça finit à quel moment? Ma première réaction sur le coup, et sans participer non plus, c'était de dire « Ouh, je suis pas sûr que c'était légal, cette affaire-là. » Et puis là, les reprises me... Alors, j'ai pas été surpris, en tout cas pas comme Baldelli, du changement de décision, mais je comprends très bien les Twins. C'est un jeu extrêmement important. Tu comprends là que si on n'a pas, les chances de gagner sont énormes pour les Twins. Et là, on a senti par la suite que c'était terminé pratiquement là, pour les Twins du Minnesota. Ouais. Mais... regarde, la règle avait été instaurée, la règle Buster Posey, là, elle avait été instaurée pour éviter ce genre de situation-là. Là, c'était effectivement à l'avantage des Jays.
La dernière chose sur les Blue Jays, si je peux me permettre, Marc, peut-être pas mettre Gourriel comme premier frappeur. Là. Il n'y a pas la moyenne de présence sur les buts requis pour frapper là.
C'est ça que je disais tantôt, Alain. On essaie des choses. Schneider essaie des affaires. Je n'haïs pas ça. On n'a pas ce premier frappeur-là. Peut-être que Merrifield pourrait jouer ce rôle-là. Il l'a joué longtemps avec les Royals de Kansas City. C'est un gars qui va chercher sa part de but sur balle. C'est une saison un peu plus difficile, mais là, est-ce qu'avec les Jays, on ne pourrait pas revoir le Merrifield des beaux jours? Alors, ça serait une option intéressante à considérer, là, certes, là, pour les Blue Jays.
J'irais même avec Biggio à la rigueur. On sait qu'il a un très bon œil au bâton, même si sa moyenne au bâton n'est pas très élevée. Mais Gourriel, c'est contre-tendance, je te dirais. Bon.
Biggio, rapidement, Alain, tu ouvres la porte à Biggio, là. Moyenne au bâton qui augmente en passant, mais sa moyenne de présence sur les buts, là, elle est vraiment à la hauteur d'un premier frappeur actuellement. Alors, c'est pas fou du tout de parler de Biggio à ce niveau-là.
Bon, écoute, Marc, on va finir avec certains joueurs, plusieurs vétérans là, qui ont fait dehors. Je vais commencer avec deux équipes qui sont en série et qui ont décidé, eux, ça ne produit pas à notre goût, on va passer à d'autres choses. Les Phillies qui ont libéré Familia, Gregorius, Herrera, Cleveland, qui ont sorti de leurs 40 joueurs Serrano, entre guillemets, Ramil Reyes. Ils ont même libéré Bobby Bradley, qui est un grand joueur de premier but qui avait un peu de puissance. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, on a fait Cleveland récemment, on a parlé de certains prospects. Cedric Benson, on l'a monté. La même chose avec quelques lanceurs au niveau 2A qui avaient d'excellentes saisons. Et Cleveland est en train de préparer la relève en tentant là, de se positionner pour les séries. Je peux ajouter Jackie Bradley Jr. avec les Red Sox de Boston. Bref, du côté de Philadelphie et Cleveland, Marc, on décide d'y aller avec un peu plus de dynamisme. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu dans ce sens-là qu'on est allé. Plus question là, de tolérer un manque de production, même si c'est un vétéran. Gregorius, on lui doit 5 millions d'ici la fin de la saison. Tant pis, on vise les séries.
Ouais, écoute, c'est surprenant parce que souvent, dans le dernier droit, tu vas faire confiance à des gars qui ont de l'expérience. Puis là, tu as deux équipes qui prennent les mêmes types de décisions là, qui envoient des vétérans. Est-ce que leur présence nuisait à l'équipe tant que ça? Faut se poser la question, mais chose certaine, je regarde ce que les Phillies ont fait depuis le départ de Joe Girardi, qui, lui, adorait les vétérans. Rappelle-toi, c'est toujours été un gérant qui se fiait aux vétérans. Écoute, on peut pas... On gagne chez les Phillies depuis le départ de Girardi. On est une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Ouais. Alors, je pense qu'il faut croire en ce qu'on a bâti depuis le départ de Girardi pour dire, regarde, la philosophie, on la change puis on s'en va dans cette direction-là. Ouais. Puis on a convaincu probablement Dombrowski aussi parce que, il y a quand même un aspect financier à considérer lorsqu'on pose ce genre de geste-là. Mm-hmm. Mais là, ça va bien. Dans le cas de Cleveland, c'est la même chose. Reyes, l'autre affaire, c'est le style de joueur. On ne bâtit rien que des retraits sur des prises, puis là, ça sonnait de pire en pire. Pas de doute sur sa puissance. Mais à un moment donné, on passait à autre chose. Puis, Alain, je ne sais pas si. On en a déjà parlé dans certains reportages, mais les fameuses défenses adaptées, on voit à quel point les retraits sur des prises, c'est lourd. Hein, on se fie sur la puissance, mais avec des gars comme Joey Gallo, des gars comme Reyes, on semble vouloir les remplacer par des joueurs un peu plus, je dirais pas un peu plus athlétiques, parce que c'est des gars très athlétiques, mais un peu plus, là, on fait contact dans des endroits où il n'y en a pas de défense adaptée. Tu comprends, des joueurs là, qui vont se rendre sur les buts. Je vous dis pas que c'est évident là, comme changement, là, mais j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui vont peut-être pouvoir aller un peu plus de ce côté-là. Tu as parlé des Guardians. Bon, Stephen Kwan est un exemple. Des joueurs qui sont capables de se rendre sur les buts, bien jouer en défense, de jouer du baseball propre, c'est-à-dire tu atteins l'intercepteur, tu fais ton jeu en défense, tu places la balle dans les trous si tu es capable de faire, moins de puissance, mais plus de baseball. Moi, je trouve que les Guardians ont ce style-là. Est-ce que les Phillies sont en train peut-être d'aller de ce côté-là? On ne sait jamais, mais ça semble être une légère tendance qui se ressent, en tout cas, certes, dans les dernières décisions qu'on a vues de certaines équipes.
Oui, bien écoute, tu regardes les joueurs que les Guardians ont rappelés récemment. Nolan Jones, c'est un grand mince là, qui a des qualités athlétiques. Même chose pour Will Benson là, qu'on a rappelé. C'est le profil qu'on recherche. Hein. Puis Jose Ramirez, oui, il frappe des circuits, mais regarde, il est capable de courir, il est capable de mettre la balle en jeu, etc. Jackie Bradley à Boston, est-ce que là, on l'a libéré? Pas symptomatique un peu d'une équipe qui ne semble pas savoir trop tôt où elle s'en va?
Ben écoute, déjà la transaction Renfroe contre Jackie Bradley Jr., bon, un petit peu de misère à la comprendre. En fait, j'ai toujours encore de la misère à la comprendre. Je ne sais pas où on s'en va. C'est difficile de comprendre cette voie que les Red Sox décident de prendre. Puis ça va pas mieux, là. T'sais, on joue pas la bonne balle. Défensivement, ça a été très difficile encore pour les Red Sox récemment. Je sais pas, puis... Honnêtement, je ne peux pas dire que je fais « wow » sur les joueurs rappelés. Tu sais, Duran a l'air très bon, mais je trouve qu'il a beaucoup de failles dans son jeu. Est-ce qu'il était prêt à jouer un rôle dans le baseball majeur? Ça, je suis moins certain. Je regarde au Monticule, les joueurs, les jeunes qu'on a rappelés, on ne peut pas dire qu'on a eu... Ça a fait une forte, bonne première impression, disons. Là. Tu sais, on s'est dit, là, ce sont des jeunes. Ouais. Tu sais, quand tu es le prospect numéro 1, 2, 3... d'une organisation, ça ne veut pas nécessairement dire que tu seras un, deux, trois dans l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on les évalue d'une manière, mais je trouve qu'il n'y a, y a pas beaucoup de jeunes qu'on a rappelés chez les Red Sox, en plus là, de tout ce qui se passe, où on a fait, OK, un instant. Celui, c'est le prochain, là, ça s'en vient. On a des bons joueurs, mais de dire que c'est des joueurs qui... Tu sais, c'est pas un Raphaël Devers, là, j'en ai pas vu là, des Devers qui sont arrivés là, dès le départ, puis se sont mis à frapper, puis on les a installés à leur poste, parce qu'eux autres, là, c'est sûr qu'ils sont là pour les 6-7 prochaines années. On n'a pas... J'ai pas vu ça. Ouais. Alors, t'ajoutes à ça, bon... l'embauche de, bon, que ce soit femme ou que ce soit, on va chercher Osborne. Osborne, je peux le comprendre un peu plus parce qu'on n'a pas, on n'a pas de premier but, puis on fait payer la note au Padres, là. Donc, bon, financièrement, ça fait un peu plus de sens.
Ouais.
Mais on s'en va où? Moi, c'est juste, il est où c'est quoi le plan? Parce qu'il semble vraiment pas évident, là. Puis, je suis pas le plus grand partisan des Red Sox, mais même les partisans des Red Sox se posent de questions à ce niveau-là, là.
Écoute, leur premier prospect l'an passé, c'est Jaren Duran. Avec l'équipe présentement. On a vu le jeune Bayo. Je pense qu'il a besoin de se faire les dents encore. On s'est parlé à quelques reprises du grand joueur de premier but, Tristan Casas, a été blessé pendant une bonne partie de la première moitié de la saison. C'est peut-être lui qui jouerait au premier but présentement, Marc, s'il avait commencé la saison au niveau 3A. Donc, bon. On va terminer avec le dossier de Denelson Lamet. Quand la transaction a été faite, c'est un ancien des Padres qui est passé aux Brewers dans. L'échange qui a permis aux Padres d'acquérir Josh Hader. Marc, on disait ça, puis on pensait que Lamet était une partie importante de cette transaction-là. Il y a 2 ans à peine, c'est un bras de grande qualité. On voyait un très grand potentiel en lui. Quand je dis très grand potentiel, là, potentiel de partant numéro 1. Là, ça va à Milwaukee. Et qu'est-ce que les Brewers font? Ben, on le retire tout de suite du 40 joueurs. Bon, après avoir fouillé, Marc, un petit peu, on s'est rendu compte, c'est que l'acquisition de Lamet voulait un peu un exercice d'équilibre financier entre les Padres et les Brewers dans cette transaction-là. Avec les Brewers, on a regardé le personnel de lanceurs, puis on se disait, malheureusement, si on l'inclut dans nos 13 lanceurs au niveau majeur, on va être obligé d'en délaisser un, puis on n'est pas prêt à faire ça avec le personnel qu'on a en place. Est-ce que c'est l'embauche de Matt Bush qui a été de trop? Quand on pourrait en discuter sérieusement, est-ce qu'on préfère Matt Bush que Denelson Lamet, ce qui n'aurait pas été le cas il y a 2 ans, là, on vous le dit. Donc, c'est l'exercice que les Brewers ont fait et les Rockies se sont lancés sur Lamet. Bon, il n'y a jamais assez de lanceurs chez les Rockies. Comme quoi, Marc, l'évaluation d'un joueur, ça peut changer assez vite.
Ben, écoute, je comprends que Lamet a un passé de blessure, ça c'est clair. Là, c'est ça qui l'a empêché d'être... d'être le lanceur dominant dont tu as fait mention. Mais je me disais, bon, mais dans la transaction, tu échanges Hader, c'est déjà pas une bonne chose, mais inévitablement, tu reçois en retour, mais je pensais vraiment que Lamet faisait partie, moi, des joueurs visés. Puis finalement, ben non, c'était effectivement seulement pour alléger, bon, financièrement, ou en tout cas, se céder, là, ouais. Question financière, là, finalement, pour ce genre de décision-là. Ce qui rend la transaction encore plus douteuse à mes yeux du côté des Brewers de Milwaukee à ce niveau-là, c'est pas quelques mois encore. Tu sais, si tu veux t'en débarrasser des deux éventuellement, ben garde-le dans ton dernier droit, essaie de faire les séries, tu vas avoir des revenus additionnels. Puis bon, en tout cas, j'ai un peu de misère à suivre là, ce qu'on pensait de ce côté-là du côté des Brewers, mais ça reste que tu sais, il y a quelqu'un qui va, selon moi, va prendre le risque de aller chercher un gars comme Lamet. Parce que même s'il est blessé, il a tellement un potentiel grand. Mais c'est ça qui fait partie du sport. Lorsqu'on voit des transactions, tu sais, on entend souvent les joueurs dire « ben oui, c'est la business du sport ». C'est vrai pareil, c'est ça, c'est la business du sport. Tu changes de camp parce que financièrement, ça ne fait plus de sens. Puis là, ben, tu t'en vas dans ta nouvelle équipe, tu te dis oh, « peut-être j'ai un nouveau départ » pour finalement te faire dire que tu n'es plus sur la liste des 40 joueurs. Et lorsqu'on dit qu'une carrière dure à peu près 4 ans, 4 ans et demi en moyenne, là, c'est des situations comme ça là, qui nous font dire, regarde, Lamet n'a pas joué beaucoup dans le baseball majeur. Ce qu'il a fait, il l'a fait très, très bien. Il était spectaculaire. Mais c'est ça, être un athlète professionnel qui est souvent blessé, ben, on se retrouve dans ce genre de situation-là, qui n'est pas toujours facile. Mais ceci étant dit, fort que les Padres marquent des points un peu si on veut utiliser Josh Hader en fin de rencontre, là, mais ça, ça sera un autre balado.
Bon, écoutez, on vous invite à nos 3 matchs cette semaine. On verra les Mets de New York ce soir, ce lundi, contre les Reds de Cincinnati. Ça nous permettra de voir un peu le retour que les Mets ont obtenu quand on s'est débarrassé de quelques joueurs au cours de la dernière semaine. Mercredi, on verra les Braves d'Atlanta contre les Red Sox de Boston. C'est un duel de fort intéressant. Et en fin de semaine, ce dimanche, ben, préparez vos victuailles. Ce sera un bon vieux duel Red Sox-Yankees en direct du Fenway Park de Boston. Les Red Sox jouent pour à peu près 500. Et c'est la même chose pour les Yankees, mais je vais préciser, depuis le début du mois de juillet. Est-ce qu'on est à la même place dans les deux équipes? Pas du tout, mais on joue à peu près de la même façon, si je puis dire. Les lanceurs des Yankees, c'est bon, ce sont là qui ont un peu de problème de ce temps-ci. Peut-être que Stanton sera de retour, on verra. Voilà qui met un terme à ce balado. Donc, rendez-vous ce lundi, Mets Reds. On vous souhaite une bonne semaine de baseball, tout le monde. Portez-vous bien. À bientôt.